Alors, bienvenue, oui, à cette édition du 3 novembre 2022 des Apatrides Anonymes, votre rendez-vous bimensuel pour un regard alternatif et, faut le dire, parfois cinglant, sur les actualités nationales et internationales relatives à l'immigration, au racisme, à l'extrême droite, aux abus policiers et aux questions autochtones. Marie-Ève au micro, qui est enfin accompagnée de mes deux comparses Mathieu et Simon. Bonjour à vous deux.
Salut Marie-Ève. Ben oui, on est les trois ensemble finalement.
Ben oui, pas trop déçu justement de faire une émission à trois?
Non, pas déçu que tout fonctionne non plus. Contrairement à... D'ailleurs, je voulais m'excuser pour la dernière émission où j'étais un peu fébrile avec les problèmes techniques, mais bon.
Ben voyons, on s'en est très bien sorti. Alors...
Non, on n'entend pas Mathieu.
Ça veut dire que la personne qui sera à la console aujourd'hui ne parlera pas. Yeah, j'ai plus de temps pour moi. Alors, au programme aujourd'hui, Mathieu, lui, va nous parler de racisme systémique et ordinaire, tant sur la scène provinciale que fédérale, mais aussi de bavure policière et de profilage racial, entre autres. Simon, toi, tu vas nous présenter l'agenda militant et nous faire aussi un tour des actualités internationales, c'est ça? En nous amenant où exactement?
Ben, ça va être principalement autour de la Méditerranée, puis Europe, Maghreb, là, principalement, Turquie un petit peu aussi.
Parfait, parfait. Et ben, quant à moi, je ferai le point sur les traversées de la Manche. Également sur la Coupe du monde de soccer, en plus de quelques brèves sur le sort des Dreamers aux États-Unis, sur les formations à propos des réalités autochtones qui sont offertes aux employés fédéraux et d'autres nouvelles d'ici et d'ailleurs. Alors Mathieu, on part ça! Alors, je crois que Mathieu, tu peux nous dire coucou.
Bonsoir tout le monde.
Yeah.
Allô. On a retrouvé le micro de la console. L'émission est liée sur les rails.
Donc, on commence avec, je reviens en fait sur la situation dans la Manche où les tentatives de traversée fracassent véritablement des records. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur britannique, ce sont plus de 38 000 personnes qui ont atteint les côtes du pays depuis le début de l'année, alors que 2021 avait déjà été une année record avec un peu plus de 28 000 arrivées, soit trois fois plus qu'en 2020. Donc, ça ne fait que... Ouais, c'est exponentiel, si on peut dire. Pour la première moitié de l'année, on dénombre près de 13 000 arrivées, principalement des personnes en provenance de l'Albanie, de l'Afghanistan, de l'Iran, de l'Irak et de la Syrie. Mais à partir de juillet, les arrivées ont littéralement explosé en passant de 4 000 pour ce mois-là à près de 9 000 en août, ça a été le plus gros mois, et un peu plus de 5 000 en septembre. Et en date du 19 octobre, plus de 4 500 traversées ont été recensées. Et si la tendance se maintient, il y a un récent rapport parlementaire qui estime qu'il pourrait y avoir jusqu'à 60 000 personnes qui pourraient atteindre le pays cette année. Évidemment, qui dit multiplication des traversées dit aussi multiplication des opérations de sauvetage qui deviennent quasi quotidiennes. Et début septembre, on apprenait que le gouvernement britannique a sous-traité ses opérations de secours en tout ou en partie, ça c'est pas clair, à des compagnies privées pour la rondelette somme de 2,5 millions de livres, soit l'équivalent de près de 4 millions de dollars. Les deux entreprises en question, parce que c'est deux entreprises, ont fourni des bateaux et des membres d'équipage pour aider les autorités britanniques lors des interventions en mer auprès de bateaux de migrants. Et selon les informations qui ont été publiées sur un portail du gouvernement, la compagnie Aeolian Offshore, qui a signé le plus gros contrat, a mis trois catamarans de 24 mètres de long à la disposition là, des autorités. Ces embarcations-là doivent permettre de transporter un minimum de 100 personnes, en plus des membres de l'équipage et de la police des frontières, alors qu'elles sont normalement prévues pour transporter seulement une quinzaine de personnes. Fait que peut-être que finalement, c'est eux autres qui vont se faire sauver par les gardes-côtes soit britannique ou française. Les détails du contrat qui a été passé avec l'autre compagnie qui se nomme Seawind ont pas été divulgués. On sait seulement qu'elle doit toucher la somme de 564 000 livres, soit environ 850 000 $ pour une période de 5 mois. Et pendant ce temps-là, alors que les premiers ministres se succèdent à la vitesse de l'éclair, hein?
Ben oui, on se demande le prochain.
Non, c'est ça. Le discours, lui, reste toujours aussi hostile à l'immigration. Le nouveau premier ministre Rishi Sunak soutient que le projet d'externalisation des demandes d'asile au Rwanda. Il a d'ailleurs nommé l'ultra-conservatrice Swela Braverman au ministère de l'Intérieur, qui a dit, et là je cite, « rêver de voir un avion rempli de demandeurs d'asile en partance pour le Rwanda ». Charmant, n'est-ce pas?
On la connaissait pas, mais c'est un bon début.
Ça part en force,
ben
hein? Oui. Sunak veut aussi rendre les traversées, je cite, « totalement impraticables », entre autres grâce à un énième accord avec la France, qui prévoit des objectifs chiffrés d'interception d'embarcations, donc des quotas dans le fond, et le déploiement de gardes frontières britanniques en France. Il veut aussi réformer le système d'asile britannique en fixant des objectifs pour que 80% des demandes d'asile soient traitées en moins de 180 jours, c'est-à-dire 6 mois, contre une moyenne actuelle de 480 jours. Fait que va falloir que ça pédale, comme on dit. Le personnel britannique qui est en charge des dossiers pourrait même recevoir des primes s'il atteint certains objectifs, dont celui de traiter 4 demandes d'asile par semaine. Ça, c'est selon le Guardian. Les conditions pour l'obtention du droit d'asile vont aussi être durcies et le nombre de candidats retenus, on peut s'y attendre. L'objectif, c'est de les réduire. Je termine avec un tout petit suivi sur la situation à Calais, dans le nord de la France. La décision judiciaire à propos des interdictions de distribution de nourriture aux personnes migrantes, dont Simon, tu nous parlais,
ouais,
là,
on l'attendait, là, la décision finale.
C'est ça. Donc, elle est tombée. Elles sont annulées, donc, ces interdictions de distribution-là, par un tribunal administratif de Lille. Le tribunal juge que les distributions assurées par l'État via une seule association mandatée sont quantitativement insuffisantes pour assurer 3 repas par jour à chaque personne, étant donné le nombre de migrants, migrantes sur place. Il estime aussi que les interdictions sont disproportionnées par rapport aux finalités poursuivies, entre autres parce qu'elles affectent les conditions de vie de populations particulièrement vulnérables. Donc, après, on va voir si cette décision-là va être appliquée concrètement sur le terrain, mais ça reste que c'est une bonne nouvelle. Et toi, Simon,
on verra la ville de Calais, quelle stratégie ils vont utiliser pour contourner cette interdiction.
Oui, à part de mettre des grosses roches dans des parcs, puis des
fossés, puis des affaires comme ça.
Voilà, mais là, on reste en mer, hein, si
ouais,
je comprends bien.
Oui, au sud, en Méditerranée, où comme dans la Manche, les chiffres explosent, même à un point qu'on beaucoup d'observateurs sont en train de dire qu'on pourrait revenir aux chiffres de la crise migratoire de 2015-2016. On se dirigerait vers ça. Pas nécessairement sur toutes les routes, mais sur à peu près toutes les routes, là, que ce soit entre la Libye, l'Italie, la Turquie, la Grèce, la route des Balkans, plus sur le continent. Ça, j'en parle dans mon deuxième bloc. Donc,
route des Balkans, tu veux dire?
Oui, c'est ça. Donc, on remarque aussi des changements opératoires. T'sais. Donc, par exemple, en Tunisie, on voit une proportion de plus en plus grande de migrants, pas juste issus du sud du Sahara, le subsaharien en majorité, mais en partie tunisiens. Et pas juste non plus des hommes seuls, mais des familles tunisiennes entières qui prennent la mer avec femmes, personnes âgées et enfants. Donc, phénomène qu'on voyait pas avant. Plusieurs interceptions, plusieurs morts aussi, des chiffres assez catastrophiques récemment. Il y a eu des manifestations importantes dans la petite ville portuaire de Zarzis, où les gens expriment leur ras-le-bol de voir leurs proches se mettre en danger pour fuir les mauvaises conditions de vie en Tunisie, et où on a même commencé à enterrer de façon anonyme, un peu à la va-vite, là, des Tunisiens morts en mer, mélangés dans des fosses communes avec les migrants subsahariens, donc ce qui a créé la colère de beaucoup de monde.
Avec raison.
Avec raison, puis d'ailleurs, il y a beaucoup de familles de disparus qui ont demandé à ce qu'on déterre des morts pour les identifier, parce qu'on en avait perdu la trace. Donc, je vous invite à vous informer ce qui se passe à Zarzis. Il y a un gros mouvement social autour de ça. C'est assez impressionnant. Peut-être que ça va débloquer sur autre chose. On verra. On va aller à Malte maintenant. Excusez, je passe vite. Il y a eu tellement de nouvelles dans les dernières semaines. Donc, Malte, ce tout petit pays insulaire qui est proche de la Sicile, un peu comme Lampedusa, un avant-poste là, de l'espace européen en pleine mer.
Ou un hotspot, comme certains...
En effet. Je pense que tu dis bien les choses. On apprenait récemment qu'il y a un navire marchand qui avait secouru 23 migrants vers la fin septembre. Il a reçu l'ordre du Centre de coordination des secours en mer de Malte, donc l'agence gouvernementale officielle maltaise, de refouler les migrants vers l'Égypte, soit 2200 kilomètres de là, alors qu'on se trouvait à environ 200 kilomètres de plusieurs ports maltais et italiens. Donc, je sais pas si ça ressemble un peu à la sous-traitance que tu décrivais dans la Manche. Je crois pas, là. Je crois que c'est vraiment un bateau de fret, là, un cargo qui a, par hasard, intercepté les migrants pour les secourir. C'est pas nouveau que Malte est accusé de comportements inhumains et illégaux envers les migrants en mer. Donc, son bilan est assez lourd en termes de, par exemple, ignorer les appels de détresse qui viennent d'embarcations en danger ou des ONG comme Alarm Phone qui font le relais.
Ouais.
Laisser les navires libyens, pas toujours bien identifiés, opérer dans ces eaux pour ramener les migrants vers la Libye. Donc, des pushbacks par procuration, mais des pushbacks par « je ferme les yeux » un peu.
Ouais.
Fermer ses ports aux navires de sauvetage, comme c'est arrivé en mai dernier dans un incident grave impliquant plus de 400 migrants très affaiblis, il me semble qu'on en avait parlé. Il avait été secouru par le bateau de sauvetage Geo Barents, à qui les autorités maritimes de Malte avaient refusé l'accès au port de La Valette. Mais c'est la première fois, cette fois-ci, qu'on entendait une telle histoire, là, qu'une agence officielle maltaise ordonne à un navire privé de déporter des migrants secourus 5 fois plus loin que ses propres ports, là, vers l'Égypte. On se demande, est-ce que c'est une pratique courante? C'est la première fois qu'on rapporte ce genre de choses, ou si c'est une nouvelle façon de procéder qui pourrait se répéter, mais ça inquiète énormément au point qu'il y a 4 ONG, Alarm Phone, justement, Mediterranea Saving Humans, Médecins sans frontières et Sea-Watch, qui envisagent de poursuivre le gouvernement maltais pour violation au pluriel du droit international.
Comment ça ressemblait à l'Italie aussi, hein?
Je vais finir avec l'Italie d'ailleurs parce que il y a un nouveau gouvernement, l'histoire se répète un peu. Avant d'arriver en Italie, tout proche de là, au large des côtes maltaises et siciliennes, ça s'est passé la semaine dernière des sauvetages aux chiffres astronomiques. Je pense que c'est du jamais vu. En moins de 24 heures, entre 1200 et 1300 migrants secourus en mer. Les migrants prenaient place à bord de seulement 2 embarcations. Donc, les migrants étaient répartis à peu près également, je pense, 600 et 700 sur 2 navires.
C'est incroyable.
Donc, on s'entend, c'était pas des zodiacs ou des genres de barges, là. Ça devait être plus des genres de chalutiers ou de bateaux industriels. Je connais pas les termes. Ce qui inquiète aussi, parce que certains se demandent si ça indique un tournant dans les pratiques des réseaux de passeurs, donc opérer à une vraiment beaucoup plus grande échelle. Mais en tout cas, ça indique clairement que c'est un commerce qui est très en croissance, très florissant. Et du nouveau gouvernement italien, je finis avec ça, qu'on peut qualifier de fasciste, là. On entend déjà la première ministre Giorgia Meloni et son ministre de l'Intérieur évoquer un retour aux politiques anti-migrants de Matteo Salvini avec un blocage systématique, non plus à la pièce, mais un blocage vraiment systématique, là, des ports pour les bateaux, des ONG, là, pour les bateaux qui viennent en secours aux migrants. Donc, Salvini n'a pas été nommé ministre de l'Intérieur, il le souhaitait, mais il est aux infrastructures, puis il rêve d'un magnifique pont suspendu entre la Sicile et l'Italie. On a un autre Matteo comme ministre de l'Intérieur, donc Matteo Piantedosi, et son premier fait d'armes, ça a été de décréter l'interdiction aux eaux italiennes pour les navires Ocean Viking et Humanity One. Donc, non seulement pas accosté, mais interdiction de se trouver dans les eaux italiennes.
Ouais, non, c'est ça. Mathieu, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, ben le ministre adjoint de Salvini a été pris cette semaine avec une photo avec un drapeau nazi. C'est son ministre adjoint là, aux infrastructures.
Ah bon? Okay.
Un jeune du parti de Madame Giorgia. Donc,
OK, un adjoint de ce nouveau ministre de l'Intérieur, là, c'est ça?
Non, un adjoint de Salvini.
OK.
Oui, voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, il est bien entouré, Salvini, actuellement.
Donc, ça va être à suivre, en tout cas, ce nouveau gouvernement.
Un autre Matteo tout aussi dur.
C'est ça.
Puis d'ailleurs, il avait été condamné avec Salvini en 2019 pour obstruction, mise en danger de personnes migrantes.
À suivre, donc, là-dessus, on va aller en musique avec une formation ougandaise, Fulu Miziki, et je vous donnerai un peu plus d'infos là-dessus au retour. Vous êtes toujours vous écoutez toujours les Apatrides Anonymes et on vient d'entendre la formation ougandaise Fulu Miziki avec la pièce CB qui est tirée de leur plus récent album Njila Wa Mudujimu paru en octobre et qui figure à la 9e position du palmarès Globe de Choc. Flow Mizuki, c'est une formation qui émerge en 2003 sur la scène underground de Kinshasa grâce à ce qu'on pourrait appeler l'esprit de débrouillardise et la conscience écologique de Pisco Crane, un artiste qui a grandi dans les bidonvilles de Kinshasa puis qui a commencé à récupérer des vieux bouts d'ordinateur, des bidons d'huile, des tuyaux métalliques, bref, toutes sortes de trucs à récupérer et pour fabriquer ses propres instruments. Et il s'est ensuite joint à Lady Aisha, qui est une artiste assez versatile et qui est aussi la voix féminine du groupe et qui, elle, conçoit les costumes du groupe, leurs masques et leur scénographie. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir en ligne des vidéos d'eux. C'est assez jouissif et vous allez voir leurs costumes, on dirait des espèces de guerriers zoulous, mais du futur là, ou de l'espace. Là, c'est assez incroyable. Et tout ça forme un joyeux mélange de punk, de musique électronique, de sonorité industrielle et de rumba congolaise. Donc, vraiment, moi, c'est ma découverte, Flow Mizuki. Et on entendait la pièce CB. Et donc, on va retrouver Simon.
C'est encore moi.
C'est encore toi.
Merci pour la belle découverte musicale. Les percussions sont cool. Je savais pas que c'était des instruments.
C'est pas pire, hein? Comme fabriqués, ouais, non, mais allez voir, allez voir les vidéos. On voit bien les instruments en plus. Donc là, on fait une tournée, hein? On sort de la Méditerranée, puis on.
Ben, je vais vous parler un peu de la route des Balkans tantôt et quelques nouvelles turques avant ça. Ben, récemment, en tout cas, on n'en a pas parlé à l'émission parce que la nouvelle date un peu, mais il y a eu des tentatives de caravane, un peu comme on voit en Amérique centrale, là, à partir de la Turquie vers l'Europe.
Mais
ça a été annulé.
C'était un peu obscur, cette histoire-là, ouais.
Fait que tant qu'il n'y a pas à avoir d'informations aussi claires que ça, on en parlera peut-être une autre fois. Mais la Turquie, ben, il y a Human Rights Watch qui publiait une enquête vers la fin octobre qui fait état d'expulsion de réfugiés qui se trouvent actuellement en Turquie, soit dans des camps, soit dans des logements. Vers la Syrie. Donc, phénomène qui est difficile à quantifier pour l'instant parce qu'il n'y a pas de données gouvernementales officielles. Human Rights Watch a rencontré des centaines d'hommes et même quelques enfants qui ont raconté comment ils ont été forcés de quitter la Turquie vers la Syrie. Le gouvernement turc se vante de son côté d'avoir facilité, là, avec des gros guillemets, le départ présumé volontaire de plus de 500 000 réfugiés syriens. Ça, c'est une donnée officielle du gouvernement. Est-ce que c'est fiable? On ne sait pas non plus. Donc, le gouvernement veut à moyen terme en avoir déporté plus d'un million. Dans le nord de la Syrie, qui est un territoire qui est sous contrôle turc et où le gouvernement Erdogan promet logement, emploi.
C'est cela, oui.
Effectivement, c'est cela, on se croirait en campagne électorale. Donc, avant même d'avoir pu négocier quoi que ce soit sur ces questions-là avec le régime de Bachar al-Assad,
ben,
qui est d'une grande fiabilité, aussi question logement et question... Bon.
Et d'une grande finesse lors de négociations.
Oui, qui est toujours très doux et qui est encore en place, hein, on l'oublie
ben,
des
oui,
fois.
Oui,
c'est
là. Ça.
Donc, départ volontaire, ça reste à voir. Donc, selon les témoignages recueillis, ça se ferait de manière assez brutale. Arrestation par des policiers ou militaires, paramilitaires turcs, à domicile, au travail, dans la rue, dans les camps directement, puis détention dans des centres d'expulsion où on forcerait, sous la menace, à signer des documents qui indiquent que le réfugié est volontaire pour retourner en Syrie. Donc la peur est vraiment en train de s'installer, de se réinstaller chez les réfugiés syriens qui sont actuellement en Syrie. En fait, je dis réfugiés syriens, je sais même pas si on déporte seulement que des réfugiés syriens vers la Syrie. Ça, il faudrait que je vérifie. Il faut rappeler que la Syrie est toujours considérée par les institutions internationales reconnues comme un endroit très dangereux, donc c'est complètement illégal d'y expulser qui que ce soit. Sinon, plus à l'ouest, on apprenait récemment que la route des Balkans, malgré tous les dispositifs anti-migrants, il y a plusieurs frontières successives le long de cette route-là, malgré les drones, les barbelés, malgré les violences des polices frontalières, dont les plus violentes sont les Croates et Hongroises, paraît-il. Ben, malgré tout ça, la route des Balkans est redevenue la route migratoire la plus empruntée pour atteindre l'Europe, plus que les routes maritimes aussi.
Oui, c'est ça, parce que depuis quelques années, justement, la route des Balkans avait été délaissée ou à peu près fermée, puis là, il y a un retour.
Il y a un retour. Ben, c'est ça, c'est tout le temps au gré des mesures désincitatives, je crois.
Oui.
Donc, on pourrait finir l'année 2022 en ayant 4 fois plus de passages qu'en 2021. Puis ça pourrait dépasser les 200 000 entrées irrégulières. Et ce chiffre s'obtient en comparant les données des différentes frontières le long de la route. Évidemment, encore une fois, c'est des estimations. Toujours beaucoup de migrants du Proche-Orient sur la route des Balkans, donc Irak, Afghanistan, Syrie, mais on remarque de plus en plus de personnes qui viennent du Maghreb, même si ça fait un très très long chemin. Imaginez partir de la Tunisie ou de la Libye, contourner complètement la Méditerranée en passant par le Liban, Israël, je sais pas. Probablement que c'est lié au danger justement des traversées de la Méditerranée avec les moyens très dispendieux et très... Ça coûte cher traverser avec les passeurs, puis c'est pas sécuritaire. Ça commence peut-être à se savoir aussi, et les gardes frontières de différentes agences ou différents gouvernements qui refoulent à qui mieux mieux, ça décourage les gens de prendre la mer. Les ONG ont aussi remarqué une augmentation notable de personnes migrantes qui viennent du Pakistan et même de l'Inde. L'un des points de passage obligés sur la route des Balkans, c'est la Serbie, qui était considérée par l'Union européenne et par la Suisse aussi, comme un maillon faible par où les migrants pouvaient facilement passer. Beaucoup de pression de Bruxelles et peut-être aussi de Berne sur Belgrade pour adopter des mesures dissuasives. Ben voilà, il y a une première série de mesures annoncées pour s'aligner sur les politiques européennes. Des visas obligatoires pour les ressortissants tunisiens et burundais. Donc, j'imagine parce qu'on remarque des effectifs de ces pays-là qui passent plus par la route des Balkans. Ça semble très niché, mais ça correspond à un alignement serbe sur les politiques européennes. La Serbie est candidate à l'adhésion à l'Union européenne.
Tiens donc.
Comme la Turquie. Donc, ça devrait pas être trop difficile pour Bruxelles d'obtenir des compromis de la part de Belgrade dans les mois et les années à venir.
Effectivement. Tout voilà est dans pour, tout, hein? Tout ceci est dans... explique peut-être cela.
Oui, puis peut-être la Turquie obtient moins d'argent pour garder, contenir des réfugiés chez eux, c'est pour ça réexpulse vers la Syrie aussi. Ça. Enfin.
Ben merci Simon. On va te retrouver un peu plus tard pour l'agenda.
C'est ça.
Et pour l'instant, on va partir. On va écouter quelques notes de musique, le temps de laisser Mathieu venir me rejoindre en studio. Vous êtes toujours sur les ondes de choc.ca avec les apatrides anonymes qui, si d'ailleurs vous nous écoutez régulièrement, vous savez que on a de gros, gros doutes ici, les trois, sur le réel potentiel de changement des divers programmes de sensibilisation, que ce soit aux réalités autochtones, au profilage racial ou au racisme systémique, surtout quand ces programmes-là sont pas obligatoires. Si vous en doutiez, les faits semblent nous donner raison. Si vous vous rappelez bien, l'appel à l'action numéro 57 de la Commission de vérité et de réconciliation stipule que les gouvernements sont tenus de fournir aux fonctionnaires une formation sur l'histoire des peuples autochtones, entre autres sur les pensionnats, le droit autochtone et les relations avec la couronne. Il y a l'École de la fonction publique du Canada qui offre donc une quinzaine de formations non obligatoires sur les questions autochtones aux employés fédéraux. Mais selon les chiffres de cette école, moins de 1/5 des fonctionnaires ont pris part à l'une ou l'autre de ces séances-là. Imaginez la séance la plus fréquentée, OK, intitulée « Réflexion sur les biais culturels, perspectives autochtones », a été suivie par un peu moins de 51 500 fonctionnaires en date du mois de juin de cette année, alors que le gouvernement fédéral employait près de 320 000 personnes en 2021. Ça veut dire que la séance de formation la plus populaire a en fait été suivie par seulement environ 16 % des fonctionnaires. Mmh. Puis il y a d'autres sessions, par exemple, une qui s'intitule « Prendre des mesures à l'égard de la réconciliation autochtone », qui est un peu comme la raison pour laquelle ces formations-là sont données, ont connu des taux de participation inférieurs à 1 % avec à peine 1000 participantes. Pardon. Et ben sans grande surprise, c'est la GRC qui est le cancre et qui a connu le taux de participation les plus faibles. de tous les ministères et organismes gouvernementaux. Sur 19 000 membres réguliers, seulement 61 ont suivi la formation sur les préjugés culturels. Je veux dire... Puis, alors que les Autochtones sont surreprésentés parmi les personnes détenues des prisons fédérales, du côté de Service correctionnel Canada, la participation du personnel à ces formations-là est presque tout aussi faible. La formation la plus populaire dont je parlais tout à l'heure a été suivie par seulement 500 des plus de 18 000 employés de Service correctionnel Canada. Ça veut dire que 2,8% des effectifs ont suivi cette formation-là. Alors, je pense que Mathieu, ça met bien la table pour toi.
Hein? Ben, écoute, je peux pas demander mieux. Oh. Hein? Écoute, moi, je vais commencer en parlant de fonction publique fédérale. Ben, écoute, d'autres problèmes systémiques, pas des formations, mais des problèmes de fond. Un groupe de fonctionnaires fédéraux noirs a déposé une plainte auprès de la Commission des droits de l'homme des Nations unies, accusant le gouvernement canadien de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance. Le NPD et Amnesty appuient l'organisme qui s'appelle Recours collectif noir, qui avait déjà déposé en 2020 une requête en action collective contre le fédéral ici au Canada. Il dénonçait dans cette requête une discrimination systémique dans la façon dont le gouvernement embauche de nouveaux fonctionnaires et accorde des promotions. Dans la demande pour obtenir la Cour fédérale l'autorisation d'intenter une poursuite collective, le groupe allègue que quelques 30 000 fonctionnaires noirs ont perdu depuis les années 70 des occasions et des avantages accordés à d'autres en fonction de leur identité.
Mais c'est beaucoup en plus parce que 30 000, mettons, depuis les années 70, déjà qu'il ne doit pas avoir tant de fonctionnaires noirs que ça, tu sais, la proportion.
Je pense qu'ils ont tous mis. J'ai l'impression, exact, dans le recours collectif, tous ceux qui ont travaillé pour le fédéral et même des gens qui n'ont pas pu rentrer au fédéral parce qu'ils n'ont jamais été accepté aussi. C'est dans la poursuite aussi. Les plaignants demandent également un plan pour enfin diversifier la main-d'œuvre fédérale et éliminer les obstacles que même les lois sur l'équité en emploi n'ont pas été en mesure de supprimer jusqu'ici. Et deux semaines plus tard, réaction du gouvernement fédéral qui a demandé à un juge de rejeter la demande d'action collective intentée par les fonctionnaires.
Sur quelle base?
Arguant qu'il serait plus approprié de traiter ce dossier comme un grief en relation de travail. Recours collectif noir fait valoir que cette question devrait être abordée comme une discrimination systémique et non d'un point de vue cas par cas, ce qui est le cas dans les griefs.
Ouais.
Donc, on est rendu actuellement.
Ça.
On reste dans la fonction publique fédérale. Marie-Ève, Immigration Canada reconnaît qu'il y a du racisme au Canada ainsi qu'au sein de sa propre organisation.
C'est donc.
Les mots sont... Ça, les mots... Qu'ai-je entendu? Les mots sont forts et expliqueraient en partie le taux important de refus de permis d'étudiants visant des ressortissants africains francophones souhaitant venir au Canada. Cette phrase figure au milieu d'une réponse du ministre de l'Immigration, Sean Fraser, à un rapport publié à la fin du printemps par le Comité permanent de la citoyenneté et d'immigration de la Chambre des communes. Ce document de 22 pages a été discrètement mis en ligne à la fin du mois de septembre, mais n'a fait l'objet d'aucune conférence de presse ni intervention publique du ministre.
Non, tu m'étonnes.
C'est les journalistes qui l'ont trouvé, finalement. Ce constat survient après différents reportages ces derniers mois révélant des rejets massifs de demandes en provenance de certains pays d'Afrique. Cela avait provoqué l'incompréhension, la colère des établissements d'enseignement et aussi, évidemment, des étudiants et des demandeurs concernés. Pour justifier ces refus, Immigration Canada leur reproche la plupart du temps une intention de rester au Canada à l'issue de leur formation.
Ben oui, mais...
Pourtant, dans le même temps, Ottawa met en place des programmes fédéraux pour prolonger le séjour des étudiants étrangers. Immigration Canada, donc, lancera une nouvelle étude interne portant sur la lutte contre le racisme en 2023 avec une ronde de discussion menée auprès de ses employés pour voir y est où le racisme, là.
Ben oui, ça va être cute, hein, surtout avec ce que je viens de dire, là, me semble.
Oui, écoutez, c'est pas pire, hein? Ottawa se dit très ouvert à revoir ses processus et se montre favorable à une série de recommandations proposées par le fameux comité parlementaire à qui il a répondu, mais peu de détails sur la réalisation des recommandations sont mentionnés. Le gouvernement accepte de revoir le processus de sélection des étudiants étrangers. Ces derniers doivent être évalués en fonction de critères davantage liés à leur potentiel et à leur valeur, a ajouté le ministre. OK, je pense qu'ils sont demandé c'était quoi d'abord.
Non, c'est ça.
On sait aussi que le logiciel Chinook, utilisé depuis 2018 par les agents d'immigration pour traiter les demandes de permis d'études, a eu des gros problèmes, a été dénoncé par différents experts en raison de son opacité. Ça, c'est un espèce de truc d'intelligence artificielle. J'en avais parlé à l'émission il y a quelques mois.
Ça me dit quelque chose. Je me souvenais pas du nom, par exemple.
Ça refusait systématiquement les étudiants africains, je pense.
Exactement. Entre autres, c'est ça. C'est pour ça que le ministre l'a mentionné. Donc, des consultations publiques sur les nouvelles technologies seront menées et une évaluation de Chinook sera faite, a rajouté le ministre. Sans s'y engager pleinement, Ottawa compte également étudier la faisabilité de créer un bureau d'ombudsman. Dans le cas... sur l'immigration au Canada au niveau des demandes, c'est ça, refusé ou pas, ouais, pour les gens, les demandeurs. Et là, j'ai une citation. On est content, très satisfait de voir cette ouverture, souligne Claire Launay, la porte-parole de l'organisme Le Québec, c'est nous aussi, qui milite pour la mise en place d'un bureau indépendant capable de soulever, de parler de ces enjeux-là, là, de refus. Donc, une espèce de on s'excuse, finalement, mais on le publie pas.
On fait ça tout croche pareil.
Ouais, puis là, avec tout ce qu'on entend sur les formations, ben... puis toujours dans l'institutionnel, l'ex-président de la Commission de vérité et réconciliation, Marie-Ève, affirme que le projet de loi libérale visant à supprimer certaines peines minimales obligatoires du Code criminel ne va pas assez loin. Murray Sinclair affirme que le projet de loi C-5 ne remédie pas à la surreprésentation des Autochtones et des Noirs dans le système de justice criminelle. Il estime que le gouvernement n'a pas fourni de données probantes pour justifier cette approche fragmentaire qui maintiendrait dans le Code criminel les 2/3 des peines minimales obligatoires. Mmh. On se rappelle que les changements proposés élimineraient certaines mesures faites par Stephen Harper lors de ses nombreux gouvernements et que ça vise souvent des questions de drogue, les questions qui touchent entre autres des gens plus à faible revenu, des gens exclus. Donc voilà, j'ai le temps encore pour racisme très ordinaire. Deux administrateurs d'un centre communautaire musulman affirment avoir été victimes de harcèlement discriminatoire et d'une atteinte à leur liberté de religion de la part de la ville de Montréal-Est sur l'île de Montréal et de l'un de ses fonctionnaires à qui ils réclament un dédommagement de plus de 20 000 $. La genèse de cette histoire remonte au mois d'août 2016 lorsque la ville de Montréal-Est a communiqué avec le centre communautaire et socioculturel Asafai, ça c'est son nom, afin de révoquer son certificat d'occupation sous motif qu'il occupait son local comme lieu de culte dans un secteur où le zonage ne le permet pas. Et quand même, 6 constats d'infraction totalisant 1 300 $ ont été remis en juillet 2018 et avril 2019. Ils ont tous été invalidés par la cour municipale, notamment à raison d'un manque de preuves fournies par la ville. Le président du centre communautaire, Slimane Zahaf, reconnaît que des membres de la communauté musulmane pratiquaient la prière dans ce local une fois par semaine le vendredi après-midi, mais ils priaient toutefois à titre personnel, c'était pas organisé, c'était pas une mosquée, c'était pas organisé par le centre. Le reste de la semaine, activités sociales et cours de langue. Donc, dans les faits, c'était un centre culturel où on aide les nouveaux immigrants dans leur intégration.
Ouais.
Mais bon, à cause de ça, le centre a déménagé à Pointe-aux-Trembles en 2020, mais là, avec l'aide de la Commission des droits de la personne, les deux anciens administrateurs poursuivent la ville de Montréal. Et le fonctionnaire zélé qui n'arrêtait pas d'aller les voir pour leur donner des constats d'infraction. Là. Donc, petit racisme ordinaire.
Mais
là,
non, mais en plus, c'est juste perte de temps et d'énergie pour tout le monde.
Je le sais.
C'est n'importe quoi.
Un dernier sujet, ouais, pour ce premier micro. La communauté japonaise montréalaise a dénoncé le festival Japania pour une exploitation irrespectueuse de sa culture.
Ça, c'est chic.
Ce nouveau festival est organisé par des non-japonais qui n'ont jamais visité le Japon. Là, je lis un extrait de l'article de Pivot. En plus de n'avoir aucun organisateur ou consultant d'origine japonaise, ils ont ignoré les discussions avec certains membres de la communauté et ont montré peu de respect envers d'autres membres. Les commerçants japonais ont boycotté l'événement. C'est assez symbolique, disons. Les organisateurs du festival ont affirmé qu'une personne japonaise était impliquée lors des débuts du processus d'organisation, mais que cette personne s'est désistée plus tard. Peut-être c'est un commerçant japonais, on sait pas.
Peut-être, oui. Puis évidemment, les organisateurs se gardent d'expliquer pourquoi la personne...
Elle s'est consacrée à d'autres projets professionnels. C'est même dit dans l'article.
Ben oui, elle est allée relever d'autres défis.
Oui, c'est ça. C'est la phrase.
Ils ont aussi affirmé que diverses études et recherches ont été entreprises durant l'organisation, citant que la vérification des sources a été primordiale pour eux. Écoutez, puis en terminant là-dessus, un Montréalais d'origine japonaise qui est cité dans l'article souhaite que les personnes désirant ouvrir un commerce japonais ou organiser un festival consultent la communauté. Il dit « On est seulement 1400 à Montréal, on a des organisations, c'est pas très difficile de nous trouver.
Ouais. »
Et puis là, bon, dans l'article, il cite aussi le chef Jiggly, puis une autre patente qui ont utilisé des sumo puis des geishas dans des pubs dans les dernières années. Donc, c'est quelque chose qui est récurrent pour les Asiatiques en général,
ouais,
je dirais, là. Particulièrement les Japonais.
Ouais.
Voilà, Maria.
Écoute, un gros merci, Mathieu. On va se reparler tantôt. Pour l'instant, on va aller en musique avec un artiste montréalais, un artiste rap montréalais qui se nomme Raccoon et la pièce Victime. Et je vous en parle un peu plus au retour.
It's your boy, D-Fresh, man. peine s'éteint. On braque une arme dessus car maman doit de l'argent. La tabasse est sauvée par la cloche, sauvée par monsieur l'âge. J'en change de hood, mais change pas d'humeur et je trosse pas l'humain. J'étais au primaire la première fois qu'on m'a menacé de m'allumer. Je m'observe à travers sa lunette, faut pas que je devienne comme eux. Le désir de vengeance m'envahit la tête. J'emmerde le bien commun, j'exploite la faiblesse des plus faibles que moi. Mais t'inquiète, j'apprends peu. J'aime pas l'école, j'aime encore moins les codes, sauf quand je les rentre en jeu. Nouvelle époque, mais c'est la même époque et c'est le même époque. On bat des postes, mais t'inquiète, c'est posé. Si vous m'aimez pas, ton son est fini. Si j'ai besoin d'être fait, d'être pour enjoy ton beat, c'est Raccoon City. Genre les flots de fêlé qui fait noeil ton pipe. J'ai le feeling que c'est inévitable. L'industrie est wobbly, artiste unique, style inimitable. C'est un fait établi. J'ai des homies qui sont dans l'illégal à gaspiller leur talent. Et les gars ressentent le besoin d'être bad. Chaque achille a son talent. C'est ironique, mais tu peux être dos même si t'as rien à vendre. J'aime pas le street rap. Moi j'aime le rap où tu mets rien avant. J'ai de la famille qui pense que le label m'a fait une belle avance. Je voulais une balle pour décorer ma chambre comme Stéphane Bell à France. Et sur le terrain y'a des chats, y'a même pas de ballon. Pas juste en Space Jam, les négros ont le bras long. On a kické ma porte et pris d'assaut mon salon. Dis-toi que j'ai connu le street de l'autre côté du canon. J'suis une victime, j'ai longtemps pensé que les noirs m'aimaient pas. And I walk it like I talk it, check où moi amener mes pas. Y'a fallu que les blancs me valident pour que les gars de mon coin me respectent. Ils ont vu ma tête à Radio Can, bro, what you expect? Wow, et j'voulais plus être un spectateur. Quand tu dis que j'vais pas réussir, homie, j'espère que t'as tort. J'suis dans le spot où ils étaient pas d'accord qu'on me mette. Well, fuck it, j'vais les mettre d'accord. Ça se fait aller l'opinion, le temps d'un Snapchat. Mais dans la vraie vie, on voit personne agir. Les bad guys sont stock dans leurs personnages. Pendant que les good guys rap pour les personnages. J'ai mis l'héritage sur papier comme un notaire. Tu te fais out-rap par un travailleur communautaire. Wow. Bon, c'est le temps qu'on réévalue nos termes. Disons que je suis déçu quand je vois comment évolue l'homme moderne. Yeah. Aujourd'hui je préfère faire cavalier seul dans une ère où ton artiste préféré c'est ton agresseur. Et j'écrivais des strophes au lieu d'écouter les professeurs. Être ignorant c'est tough quand tu veux rapper comme connaisseur. Je donne mon opinion inopinément et je suis mignon. Mais j'ai une mentalité qui est le mort. Et si un jour le raton arrête de parler, c'est qu'il est mort. Je vous laisse méconnaissable, on va même pas savoir c'est qu'il est mort. Je commence à réaliser que mon temps est peut-être compté. Je commence à réaliser qu'on est peut-être con. J'ai mon instinct de survie que j'essaie de dompter. Par je suis prêt à catch un body pour arrête de jouer la victime, on dit t'es trop soft. Arrête de jouer la victime, no one gives a fuck. Arrête de jouer la victime, on dit t'es trop soft. Arrête de jouer la victime, arrête de jouer la victime. Arrête de jouer la victime, on dit t'es trop soft. Arrête de jouer la victime, no one gives a fuck. Arrête de jouer la victime, on dit t'es trop soft. Arrête de jouer la victime, arrête de jouer la victime. Back dans le hood again, les gars, je struggle encore. Mentalité tous les gains, toute l'équipe se parle en code. Je suis arrivé out the blue, c'est dans mon blood. Si ton bloc comprend le mood, c'est qu'il a grandi dans mon club. Wow. Back dans le hood again, les gars, je struggle encore. Mentalité tous les gains, toute l'équipe se parle en code. Wow. Je suis arrivé out the blue, c'est dans mon blood. Si ton bloc comprend le mood, c'est qu'il a grandi dans mon club. Yeah. Back dans le hood again, les gars, je struggle encore. Mentalité tous les gains, toute l'équipe se parle en code. Je suis arrivé out the blue, c'est dans mon blood. Si ton bloc comprend le mood, c'est qu'il a grandi dans mon blood. Wow. Back dans le hood again, les gars, je struggle encore. Mentalité tous les gains, toute l'équipe se parle en code. Wow. Je suis arrivé out the blue, c'est dans mon blood. Si ton bloc comprend le mood, c'est qu'il a grandi dans mon blood. Yeah.
On écoutait le rappeur montréalais Raccoon avec la pièce Victime, tirée de son troisième album intitulé Coon, la prophétie, paru en octobre et qui occupe la 9e position du palmarès rap de Choc. Historiquement, le terme coon a été utilisé par les blancs pour discriminer les noirs, un peu là comme le mot en N, mais aussi pour pointer du doigt un noir qui aurait perdu sa culture d'origine au profit d'une culture blanche dominante. Et donc Raccoon a voulu se réapproprier le terme et porter un regard cinglant, si on veut, sur son rôle de rappeur noir dans une industrie musicale majoritairement blanche. Avant de poursuivre avec Mathieu et son blog sur l'immigration, deux nouvelles sur le même sujet. D'abord, chez nos voisins du Sud, début octobre, il y a une cour d'appel qui a jugé illégal un des programmes phares là, des années Obama qui protégeait l'expulsion, les Dreamers, soit ces personnes migrantes arrivées clandestinement aux États-Unis lorsqu'elles étaient mineures. La décision a confirmé un jugement de première instance qui limitait la portée de ce programme-là, bloquant ainsi là, toute nouvelle demande, mais on a quand même maintenu le statut des quelques 600 000 jeunes de moins de 30 ans qui en bénéficiaient déjà. La cour d'appel renvoie toutefois le jugement en première instance, encore une fois, laissant notamment au prochain juge le soin d'étudier la nouvelle version du programme qui a été proposée par l'administration Biden en août et qui est baptisé le DACA. Petit rappel, c'était un programme qui avait été mis en œuvre en 2012, qui a été annulé en 2017 par Donald Trump. Mais la Cour suprême des États-Unis avait renversé cette annulation-là en validant le programme. Sauf que, comme la Cour suprême avait basé sa décision sur des questions, là, des détails de procédure, ça fermait pas complètement le dossier dossier judiciaire là-dessus. Mm-hmm. Donc, en juillet 2021, il y a un juge qui a partiellement invalidé le programme, estimant que l'ancien président démocrate avait outrepassé ses pouvoirs en agissant par décret, après avoir échoué à faire adopter cette réforme-là au Congrès. Et donc, c'est cette décision-là qui était contestée par l'administration Biden et qui a été confirmé là début octobre.
Okay.
Et je termine sur une bonne nouvelle cette fois-ci. Le gouvernement du Manitoba acceptera plus d'incarcérer dans ses prisons provinciales des personnes migrantes détenues par l'Agence des services frontaliers du Canada. Donc le Manitoba devient la quatrième province après la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse et l'Alberta à mettre fin à cette pratique-là. Ça reste quand même une décision surprenante de la part d'un ministre de la Justice, du ministre de la Justice Kelvin Gordzon, qui est conservateur,
oui, oui.
Mais en plus, il dit qu'il s'inspire de ce qui l'a inspiré, c'est Axworthy, tu sais.
Qui est rendu responsable du pacte pour les réfugiés, là.
Exact, ouais, c'est ça, ça a l'air que se sont parlé, là, tu sais, puis
des vieux chums.
Bref, et donc, parlant de détention de personnes migrantes, il y a la nouvelle prison à Laval qui est officiellement ouverte, et les personnes qui étaient détenues dans l'ancien centre ont été transférées. Je vous invite à aller lire l'entrevue que l'équipe de Pivot a fait sur le sujet avec Amy Darwish, qui est membre de Solidarité sans frontières. Elle a pu, s'entretenir avec plusieurs des personnes transférées qui dénoncent des conditions de détention encore plus sévères, dont une surveillance accrue, une atmosphère plus carcérale, mais aussi davantage d'isolement et surtout qu'il y a eu des annulations de visites, notamment des visites en extérieur. Donc, on va suivre le dossier aussi.
Il va y avoir des manifs aussi éventuellement, c'est ça?
Exact. Oui, Simon?
Il me semble qu'on nous promettait une prison comme plus conviviale, plus family friendly. Mais c'est vraiment, je pense, ça a l'air que c'est pire qu'avant.
Finalement. Yes, c'est ça. C'est ce qui semble ressortir de l'entrevue avec Amy Darwish, ouais. Alors, Mathieu, je te cède le micro.
Oui, ben on va parler encore de racisme, hein, évidemment. C'est police baveux, racisme et différents épais. On va commencer par l'ancien chef de l'ancien Parti nationaliste canadien, Travis Patron, qui a occupé d'un an de prison pour avoir tenu des discours haineux à l'égard des Juifs. Donc, Patron n'aura pas le droit de faire des publications au sujet des Juifs durant un an après avoir purgé sa peine de prison.
Ah, je pensais qu'après avoir suivi des formations...
Non, arrête avec tes formations. Là.
Il n'y en a pas de formation.
La GRC avait ouvert une enquête à son sujet après la publication d'une vidéo qu'il mettait en scène. Il y dénonçait ce qu'il décrivait comme la tribu parasite et avançait que les Juifs contrôlaient les médias et la Banque du Canada.
Ben oui.
Cette année, en passant, il a été aussi reconnu coupable d'avoir agressé deux femmes à Regina. Donc, en prison, ce monsieur-là, actuellement. Sinon, la décision, ben, c'est sûr, de la semaine, des deux dernières semaines, c'est celle en matière de profilage racial, évidemment, au Québec. La Cour supérieure.
Oui.
Oui, ça va, Marie. Oui. La Cour supérieure ordonne la fin des interceptions sans motif réel des automobilistes. Ce pouvoir arbitraire sert pour certains policiers de sauf-conduit de profilage racial à l'égard de la communauté noire, conclut le juge. Des extraits intéressants. Le profilage racial existe bel et bien. Ce n'est pas une abstraction construite en laboratoire. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Elle se manifeste en particulier auprès des conducteurs noirs de véhicules automobiles. Les droits garantis par la CHAD ne peuvent être laissés plus longtemps à la remorque d'un improbable moment d'épiphanie des forces policières. Ça, c'est dans le jugement.
C'est assez fort, hein?
Il y a 170 pages comme ça dans le jugement. On ne peut pas, comme société, attendre qu'une partie de la population continue de souffrir en silence dans l'espoir qu'une règle de droit reçoive enfin de la part des services de police une application qui respecte les droits fondamentaux garantis. Non, il n'est pas allé avec le dos de la main morte, comme on dit. C'est sûr qu'il y a beaucoup de réactions. J'en cite quelques-unes. C'est une victoire contre le profilage racial pour beaucoup de gens, les Noirs, les Autochtones et les autres personnes racisées qui, depuis des décennies, se font interpeller de façon disproportionnée par la police. Ça, c'est l'association pour la Canadienne pour les libertés civiles. Cette décision représente non seulement le potentiel d'apporter de nombreux changements au Québec, mais aussi au Canada dans de nombreux litiges qui sont déjà devant les tribunaux. François Legault a dit que son équipe est en train d'analyser le jugement et qu'aucune décision n'a encore été prise sur un éventuel appel. Son gouvernement est contre le profilage racial, a-t-il dit, ajoutant qu'il faut laisser les policiers faire leur travail quand on voit la violence qu'il y a à Montréal dans certains quartiers. Le lien était vraiment fascinant. Ben non, l'Association des directeurs de police du Québec prévient que si cet outil important, entre guillemets, est retiré aux policiers, il risque d'avoir plus de morts et de blessés sur les routes. Hein? On est vraiment dans la nuance.
Des accidents routiers?
Ben oui.
Je crois que j'ai de la misère à suivre.
Oui, ouais, parce qu'ils pourront plus interpeller les gens qui ont l'air sous, qui ont l'air suspects.
Ah oui, parce que les gens qui ont l'air sous et qui ont l'air suspects, c'est évidemment des personnes noires.
En partie. La Ligue des Noirs du Québec a félicité le juge Yergault pour cette décision historique. On rappelle que l'organisme a intenté un recours collectif de 171 millions de dollars contre le SPVN pour profilage racial, une cause qui devrait être entendue dans la prochaine année. Lui-même victime de profilage racial de la part du service de police de la ville de Repentigny, François Ducas s'est réjoui de la décision, même si l'enseignant avait reçu une compensation pour dommages moraux après avoir porté sa cause devant le tribunal des droits de la personne. Il confie ne pas avoir réussi à tourner complètement la page jusqu'ici, mais il est très content de la décision. Le directeur général du Centre de recherche Action sur les relations raciales, Faux Niemi, s'est également réjoui de cette très grande victoire pour la lutte au profilage racial. La suite des choses, à savoir s'il va avoir appel, en dira long, selon lui, sur les intentions de vraiment s'attaquer à cet enjeu.
C'est clair.
Pendant ce temps, sur le terrain, le BEI porte des accusations contre un policier de Québec impliqué dans de violentes interventions filmées en novembre 2021 sur la Grande Allée.
BEI, Bureau des enquêtes indépendantes
au Québec. Jacob Picard, 27 ans, devrait comparaître le 28 novembre à Québec. Il fait face à des accusations de voies de fait ayant causé des lésions. Il y avait eu trois histoires, là.
Oui.
Avec un groupe de jeunes. Oui. Noir, entre autres, à Québec. Sinon, dernier sujet dont je voulais te parler, Marie-Ève, c'était vraiment intéressant. La police de Vancouver se retrouve sur la sellette au lendemain d'une cérémonie de la Première Nation Itsouk, destinée à panser les plaies après l'arrestation justifiée d'un grand-père et de sa petite-fille en 2019.
Oui, je vous en avais parlé de ça.
Puis je vais vous rappeler rapidement les faits en quelques secondes. Cependant, comme les deux policiers qui les ont arrêtés ne sont pas venus assister à la cérémonie autochtone organisée à Bella Bella, c'est le nom de la communauté, les leaders de la Première Nation ont refusé les excuses formelles de la police. La cérémonie a plutôt donné lieu à des allégations de racisme systémique à l'endroit de la police. L'absence des deux policiers, Michel Tong et Cannon Wong, a profondément choqué les dirigeants autochtones et la communauté. Que le service de police de Vancouver dise que leur présence ici est suffisante pour réconcilier après ce qui s'est passé, manque profondément de perspicacité, indique la chef de la Première Nation, Marilyn Slett. Selon elle, la réconciliation n'est pas suffisante si elle est seulement entreprise par les organisations et la direction. Elle doit aussi se faire sur un plan individuel. Donc, au cours d'une cérémonie de 5 heures, le chef héréditaire a traversé le sol recouvert de sable et a redonné le cadeau qu'il avait reçu plus tôt du chef de la police de Vancouver, Adam Palmer.
Tiens-toi.
La foule a applaudi lorsqu'il a expliqué au chef et aux membres de la commission municipale de police que la communauté ne pouvait pas accepter le cadeau d'une organisation qui tolère le racisme, qui ne tient pas les individus responsables de leurs actes. On rappelle qu'en décembre 2019, Maxell Johnson et sa petite-fille, alors âgée de 12 ans, ont été arrêtés dans une succursale de la BMO, Banque de Montréal, et menottés à Vancouver. Les employés de la banque pensaient qu'ils tentaient d'ouvrir un compte avec des pièces d'identité frauduleuses, entre autres une carte de statut d'Indien émise par le gouvernement du Canada. Pour beaucoup de gens, l'absence des deux policiers à la cérémonie s'explique par le refus du syndicat de les laisser y aller. Il y avait plein de dirigeants de la police, mais pas donc les deux policiers. Et c'était une condition, la participation à la cérémonie des deux policiers, à l'entente au règlement de la poursuite qui avait été faite par M. Maxwell Johnson. Donc, ça remet en question l'entente qu'il y avait eu pour pas qu'il y ait de poursuite pour abus devant les tribunaux. Donc, c'est à suivre comme histoire, on va en entendre parler, mais c'est assez intéressant de voir cette dynamique-là se faire ou ne pas se faire.
Oui, effectivement.
Ouais, fait que des nouvelles de la Colombie-Britannique pour nos amis de Radio Victoria.
Merci, Mathieu. Sur ça, on va aller tapocher des casseroles pour retrouver Simon et son agenda militant. Alors, Simon, qu'as-tu prévu pour nous?
Bon, on parlait de banque, là, c'était BMO à Vancouver. Ouais. Là, on va parler beaucoup de la Banque Royale, RBC. Royale, c'est ça. Beaucoup d'actions samedi prochain en lien avec le climat et la décolonisation. des événements qui se chevauchent un peu, donc faudra que vous fassiez des choix. C'est la journée de la RBC, de la Banque Royale, qui est visée par pas moins de 3 événements décoloniaux et environnementalistes dans la seule journée de samedi à Montréal, donc je vais y aller chronologiquement. Premièrement, la succursale de la RBC de l'Université McGill, on dit au 666 Sherbrooke West, à 13h, il y a une démonstration qui a été intitulée Climate Change et Indigenous Solidarity Action. Il y aura des discours puis une marche vers la succursale de la Banque Royale à Concordia avec un beau hashtag, hashtag RBC Off Campus. Alors, on va en profiter pour souligner l'implication de la Banque Royale dans la construction du pipeline Coastal GasLink, presque 7 milliards investis dans le projet de TC Énergie, dont les travaux ont repris sur les territoires des Wet'suwet'en, travaux qui, comme on le sait, mettent à mal les territoires naturels sacrés, des rivières à saumon qui drainent une grande partie du territoire, des milieux humides, tout ça sur 670 km et avec l'accord enthousiaste du fédéral, bien qu'on soit en période dite de réconciliation. OK, ma phrase est terminée. Sans compter les GES énormes qui vont être engendrés par la construction en soi du pipeline, par son opération et par la consommation du gaz qui va en découler. Donc, 13h samedi à l'Université McGill. À peu près en même temps, donc deuxième action, toujours samedi prochain, 5 novembre, à Montréal, devant la succursale de la Banque Royale au coin de Jean-Talon et Châteaubriand, 600 Jean-Talon Est, la tour Jean-Talon, donc je ne sais pas si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment. Mais après les discours de dénonciation du pipeline Coastal GasLink, vers 15h, il y aura un spectacle de solidarité sonore qu'on nous promet bien dark et digne des scènes les plus underground de Montréal. Donc, on joint le...
Ça pique la curiosité.
Je suis curieux, je pense que je vais faire un petit tour. Troisième événement, samedi, d'une série d'actions qui s'annonce plus large dans le temps, aux abords du Centre Bell à partir de 17h30 cette fois-ci. L'événement s'appelle « Il y a une tache d'huile sur votre chandail canadien ». On se rappelle que le chandail du Canadien, le jersey, est l'un des premiers de la Ligue nationale de hockey qui est souillé par le logo d'une entreprise. Et ben oui, c'est le logo de la RBC, qui est maintenant cousu sur le chandail du Canadien. Il y aura donc une tentative de discussion et distribution de tracts de sensibilisation, avec les fans du Canadien qui viennent assister à la partie de hockey samedi soir. Entre 17h30 et le début du match canadien Golden Knights de Las Vegas. Voilà pour la Banque Royale. Dernière suggestion en lien avec le décolonialisme, une série de séances de visionnement de documentaires, de podcasts et de capsules pour approfondir votre compréhension des enjeux décoloniaux et pour mieux déchiffrer un document qu'on trouve gratuitement en ligne et qui s'appelle la boîte à outils décoloniale. Il reste 5 séances dans la prochaine jeudi 10 novembre à 19h. C'est des séances live là, en personne, donc la série de séances s'appelle HUB de mobilisation pour la justice climatique. C'est une collaboration entre l'organisme Micana, le Bureau de l'engagement communautaire de l'Université Concordia et le Réseau, donc Réseau c'est un acronyme, le Réseau de la communauté autochtone à Montréal. Et ça se passe à différents endroits comme au Café Aquin ici à l'UQAM, à la Livrerie sur Ontario ou encore à l'Espace des Possibles. Ça prend des billets, mais c'est gratuit. Info à lehub.ca. Vous pouvez aussi consulter gratuitement en ligne le PDF très intéressant qui s'appelle « La boîte à outils décoloniale ». Et si vous sentez le besoin d'en savoir plus après avoir consulté le document, ben allez assister à l'une des séances de visionnement gratuites. Et sinon, ben c'est ça pour l'agenda. Il y a les RIDM qui commencent, c'est du 17 au 27 novembre. Je pense que dans 2 semaines, à la prochaine émission, on va vous faire des suggestions. On va essayer d'éplucher cette grosse programmation super intéressante. Il y a tout le temps plein de trucs en lien, ah oui, justement, avec le décolonialisme, le racisme, les frontières, etc. Donc, voilà.
Bien, merci. En tout cas, grosse fin de semaine en perspective.
Pour la ABC, oui.
Alors, quelques notes de musique, mon cher Mathieu. Ah. Avant de clore l'émission, des petites nouvelles du Qatar, où la Coupe du monde de soccer doit se tenir à partir de très bientôt, le 20 novembre. On vous a déjà parlé des conditions de travail sur les chantiers de construction des différentes installations sportives. Et même si Amnesty International constate que la réforme du système du travail qui a été initiée en 2017 au Qatar s'est traduite quand même par des progrès importants pour les 2 millions de travailleurs, travailleuses migrants du pays, dont des centaines de milliers ont été embauchés sur des projets essentiels à la tenue de la Coupe du Monde, eh bien, l'amélioration de la situation est limitée par une application et une mise en œuvre lacunaire, selon Amnesty. Mise en œuvre lacunaire des réformes, oui, c'est mieux de préciser. Des milliers de travailleurs, travailleuses sur toutes sortes de types de projets seraient encore confrontés à des problèmes comme le retard ou le non-paiement des salaires, la privation de jours de repos, des conditions de travail dangereuses, des difficultés pour changer d'emploi, un accès limité à la justice et faut pas oublier qu'il y a des milliers de décès aussi qui ont toujours pas fait l'objet d'investigations. Dans ce contexte-là, Amnesty a réitéré son appel à la FIFA et au Qatar pour la création d'un fonds d'indemnisation destiné aux travailleurs et travailleuses migrantes victimes d'abus. En mai dernier, il y a d'ailleurs la campagne « Pay Up FIFA » qui a d'ailleurs été lancée par une coalition d'organisations de défense de droits humains, dont Amnesty, mais aussi d'associations de supporters et de syndicats pour demander à la FIFA et aux autorités qatariennes de mettre en place un programme global de réparation destiné à verser des indemnités puis à empêcher que d'autres abus ne soient commis.
Mais, je sais pas si on va contacter les familles des 6000 quelques ouvriers morts.
Ouais, non, c'est ça. Tu sais, ben, bref, faut voir après si ça se concrétise puis comment ce fonds-là fonctionnera. Mais, et bon, ben, ce que dénonce aussi Amnesty, c'est que malgré un soutien de plus en plus grand en faveur de l'indemnisation des travailleurs travailleuses, le Qatar et la FIFA ne bougent pas. Je rappelle qu'au Qatar, les travailleurs travailleuses migrants ne sont toujours pas autorisés à former des syndicats ni à y adhérer. Alors, ma question est la suivante. Et vous, allez-vous boycotter la Coupe du monde 2022?
Ben, moi, oui.
qu'est-ce que tu dis?
Puis, à la maison, pensez-y.
Oui.
Alors, voilà, c'est ce qui clôt pour aujourd'hui. Je vous rappelle que, ben, merci à vous deux, d'ailleurs, Mathieu et Simon. Ça faisait vraiment très plaisir de se retrouver les trois.
Ça faisait 6 semaines qu'on n'avait pas été les trois ensemble.
Ben oui, le triangle de la mort.
Mais
oui,
comment avons-nous pu survivre à ces 6 semaines?
Et vous, spectateurs, auditrices, comment avez-vous pu survivre?
On en parle à la prochaine émission.
Merci Marie-Ève pour ton animation. Écoute, on a oublié une petite manif, Simon.
C'est vrai, vas-y Mathieu, Solidarité sans frontières.
C'est encore la régularisation, SSF, c'est partout au Canada. Il y en a une à Québec, à Sherbrooke. C'est dimanche à Montréal, 14h, Place de la Paix, boulevard Saint-Laurent. C'est encore, on tape sur le même clou parce qu'il n'y a toujours pas d'annonce fédérale là-dessus.
Oui, ouais. Non, c'est ça. Puis, ben, il y a plusieurs, c'est une journée d'action partout au Québec.
Au Québec, au Canada, oui.
Je sais qu'il y a une manif aussi à Québec, il y en a une autre à Chicoutimi.
Sherbrooke, Chicoutimi.
Ah, ouais. C'est ça. Excuse-moi, Mathieu.
Oui.
Taper les mains de Marie-Ève. Je vous rappelle que
c'est fait.
Je vous rappelle que on va ben c'est ça, vous pouvez nous entendre aussi hein sur les ondes FM du 107,9 de Radio Victoria. Comme Simon l'a mentionné tout à l'heure, vous pouvez nous écouter en balado si vous avez manqué des émissions et vous pouvez nous écouter aussi en rendant sur notre page donc sur le site de choc.ca ou sur notre propre site internet www.apatridesanonymes.info. On vous invite à nous écrire à apatridesanonymes@commercialresist.ca et sur notre page Facebook.
Ah, je l'ai dit.
FB.
On se laisse en musique.
On se laisse dans la joie, Marielle.
Dans la joie et l'allégresse, avec la pièce Anywhere de la formation Noise Rock Chat Pile, qui est originaire d'Oklahoma City. C'est tiré de leur tout premier album intitulé God's Country, pardon, qui est sorti en juillet, qui a été aussi au palmarès de Choc il y a quelques semaines, et qui porte un regard cinglant sur ce que le groupe nomme le nihilisme américain. Alors, on écoute ça. Mathieu pèse sur le piton et on vous souhaite bonne soirée.
Bonne soirée.
Et on
bonne
vous
soirée.
Dit à dans deux semaines.
Le 17 novembre.
Le 17 novembre.
Au soir.
Sound.